Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 28 septembre 95.
Deux petites questions. Dans le « je suis », le « je » absorbe le « suis ». Puisqu'il est unique. Donc, il ne reste que le je. Mais c'est bien je qui constate que ceci est. Pourquoi alors ne pas commencer par le je en philosophie première? Parce que premièrement, en philosophie première, étant donné toutes les expériences qu'on a faites précédemment, qui impliquent le jugement d'existence, ceci est. C'est ça qu'il faut bien faire. L'homme travaillant existe. Le travail existe en fonction de l'homme travaillant. Quand vous travaillez le bois, vous vous arrêtez. Vous ne vous posez pas la question. Est-ce que ce travail existe? C'est vrai, c'est vous qui êtes la source de ce travail. Quand vous aimez, vous ne vous arrêtez pas en disant « Est-ce que cet amour existe ?» L'ami et vous-même, vous êtes source de cet amour. Puisque vous êtes deux sources de cet amour. Et ainsi de suite, dans toutes mes expériences qui sont à la base de ma philosophie, l'exister est présent et commun à toutes les expériences. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Puisque c'est commun à toutes les expériences, ce qui les unit, ce qui leur donne un sens particulier. Je peux considérer cet exister pour lui-même. Et même je dois le faire si la philosophie est une connaissance qui doit aller jusqu'au bout, exhaustive. Tout intéresse le philosophe. Il n'a aucun droit d'exclure, puisqu'il veut aller jusqu'au bout. Donc il ne peut pas exclure l'exister. D'ailleurs, l'exister n'existe pas. Au nom de quoi? Puisque toutes vos expériences l'impliquent. C'est ça qu'il faut bien saisir. Et ce n'est pas une première expérience. C'est une philosophie première, c'est-à-dire ultime. C'est pas ça que c'est intéressant, cette objection, parce qu'on voit bien que s'il n'y a pas toutes ces expériences avant, je pourrais en effet, je regarderai tout à l'heure l'objection, et je reprends ici pour vous, parce que je veux que vous compreniez cela. Donc c'est l'exister, c'est ceci est qui est premier, mais en même temps, je considère, puisque de fait, je fais une philosophie après Descartes. Je dois me poser la question, pourquoi je ne fais pas comme Descartes? C'était la question de ce père dominicain qui maintenant est au ciel, il doit être d'accord, j'espère. Il donnait des cours à l'Institut catholique de Paris, où il enseignait la métaphysique. Et la dernière année, il a dit, y a-t-il deux métaphysiques? La métaphysique de l'être, la métaphysique du je suis. C'est une très belle question. Et au fond, dès que je regarde la philosophie européenne, je dois me poser la question. La philosophie européenne commence, de fait, par la théologie. C'est ça qu'en Sorbonne, on a tellement de peine d'accepter. C'est que nos grands-pères sont des théologiens. L'Europe est chrétienne au point de départ. Et c'est peut-être ça qui fait l'unité de l'Europe. C'était la grande question de Nietzsche. Et c'est ça qui l'a rendu fou. Si l'Europe était chrétienne au point de départ, l'Europe peut-elle exister étant non chrétienne? Et c'est la question qu'on doit se poser, c'est très exact comme question. Qu'est-ce qui a fait l'Europe? C'est le christianisme. Ça a été le fruit. La culture européenne est une culture chrétienne. Maintenant que depuis 150 ans, l'Europe a produit toutes ses idéologies athées et qu'elle veut s'unir, elle ne s'unit pas au niveau du point de vue chrétien. Ce n'est pas le point de vue de Simone Veil. Pas tout à fait. Peut-elle exister? Bon, question importante. Hein. C'est Nietzsche qui s'est posé la question comme ça. Et c'est astucieux. Au point de vue philosophique, je dis l'Europe au point de départ. Avec les pères de l'Église, ont une philosophie réaliste de l'être. Ont une métaphysique, c'est un fait. Je ne peux pas nier ça. Parmi les théologiens, il y a Thomas d'Aquin. Parmi les théologiens, il y a Albert le Grand. Il y a et tous les grands. Et puis il y a les pères de l'Église. Et tous regardent l'être. Tous. Alors, il y a l'autre partie de l'Europe qui, à partir de Descartes et avant Descartes, déjà des Occam. Mais le « je suis » avant. Alors, y a-t-il deux métaphysiques possibles? La métaphysique de « ceci est », la métaphysique du « je suis ». Alors, je dis non. Pourquoi opter ceci est? Première raison, je pars de l'expérience. Et mes cinq grandes expériences impliquent l'exister. C'est ça qui est premier, implique l'exister. C'est ça qui fait la chose commune. C'est sûr, c'est exister, ce jugement d'existence, c'est moi qui le pose. Mais quand je pose le jugement d'existence, je ne me regarde pas en premier lieu. Je regarde le contenu de ce jugement qui est. Ceci est. Et que je mets en pleine lumière, ceci est. Et je dis que la philosophie et la métaphysique de l'être impliquent la métaphysique du je suis. Alors que la métaphysique du je suis n'implique pas la métaphysique de ceci est. Oui, c'est ça le point délicat. Et c'est là où on voit comment seule la métaphysique de l'être peut faire l'unité de la philosophie européenne. Comme seul le jugement d'existence au plan chrétien peut faire l'unité de la culture européenne. C'est un beau discours politique et intéressant. Oui. Et la métaphysique m'aide à comprendre ça. Tant que je n'ai pas compris la métaphysique, je ne comprendrai pas que l'Europe est chrétienne et qu'elle l'est fondamentalement et qu'elle l'est radicalement. Et que si je mets entre parenthèses le point de vue chrétien, il n'y a plus d'unité. Il y aura une unité factice qui sera une unité économique. Or, l'unité économique de l'Europe ne peut pas se séparer de l'unité économique du monde entier. Donc, l'Europe ne sera qu'un assemblage économique. Or, ce n'est pas le propre de l'Europe d'être première en économie. Sa qualité, c'est le point de vue de l'art, c'est le point de vue de la philosophie, puisqu'elle en est la source. Et c'est le point de vue religieux, le point de vue chrétien, qui en est vraiment la source principale et première. Alors, vous voyez comment le point de vue du « je suis » vient ensuite par rapport à ceci. Et je dis que « je suis », c'est sûr, me donne une expérience unique. Nous y reviendrons. Une expérience qui, affectivement, est plus forte que ceci est. Je ne suis pas ému quand je dis « ceci existe ». Moi, pour le moment, je ne suis pas très ému. Tandis que quand je dis « je suis », oh, c'est autre chose. Et que je sais qu'en disant « je suis seul » à pouvoir connaître mon « je suis » au plan philosophique. Quand je découvrirai l'existence de Dieu, je dirai que Dieu a une connaissance du « je suis » plus profonde que celle que j'ai. Et il est seul avec moi à pouvoir la connaissance du « je suis ». Ça, c'est très émouvant. Et c'est quelque chose de très grand. Alors, je reprends le « je suis » ensuite, mais je dis, je ne peux pas commencer par le « je suis ». Pourquoi ? Parce que ceci est à l'avantage de mettre en pleine lumière l'existé. Ceci est relatif à l'existé. Puisque le « ceci », c'est pas seulement moi, c'est aussi tel animal, la vache, l'hippopotame, la table, tout ça existe, le petit caillou. Donc, le ceci est relatif à exister. Et donc, l'exister, l'être, ceci est peut-être mis en pleine lumière. Et je peux le regarder pour lui-même. Tandis que, quand je dis « je suis », c'est le « je » qui est mis en pleine lumière. Il est unique. Mon « je suis » n'est pas celui d'Arthur à côté de moi. Non. C'est un « je suis » unique. Et quand je dis « je suis », l'exister est immanent à mon jeu. Et c'est mon jeu que je regarde. Mais le jeu ne me donne qu'une modalité d'exister. Mon exister n'est pas celle de mon voisin. C'est une modalité. Et donc je ne peux pas, à partir du jeu, dire que je regarde l'être en tant qu'être. Je regarde tel être, moi. Et ce « moi » est tellement fort qu'il absorbe l'être. Et donc, je regarde l'être à travers le « je », petite fenêtre. Je retombe dans l'erreur de Descartes qui regarde l'exister à travers du « cogito ». Je cogite. Ça fait partir de mon jeu. Je pense. Et je dis je pense, donc j'existe. Vous voyez ? Et donc je n'ai pas un regard direct sur l'être. C'est à travers moi, à travers mon jeu. Et c'est cette modalité du jeu que je n'arrive pas et que je ne peux pas dépasser. Quand je mets en premier lieu l'expérience où je suis. Vous voyez ? Alors vous comprenez l'erreur de ce qui est dit ici. Je relis pour que vous voyez bien. Dans le « je suis », le « je » absorbe le « suis », l'être. Donc, il ne reste que le « je », mais le « je » existant. Mais c'est bien « je » qui constate que ceci est « non ». C'est pas le « je » qui constate que ceci est. C'est « je suis ». C'est par l'être que le « je suis » est intégré dans ceci est, et non pas par le jeu, puisque le jeu est unique, il ne peut pas être intégré dans ceci est. Tandis que l'être du je suis est intégré dans ceci est. Mais c'est bien je qui constate que ceci est, je dis non. Je ne développe pas plus parce que on répéterait tout le temps la même chose. Seconde question. Je ne comprends pas comment on peut dire qu'on atteint quelque chose au-delà du temps, dans le jugement d'existence. Tous ce que j'expérimente est dans le devenir. Oui, toutes les réalités concrètes. J'ajoute ça, toutes les réalités concrètes que j'expérimentais dans le devenir, je ne dirais pas que tout ce que j'expérimentais dans le devenir. Ah, c'est là le point délicat. Si c'est expérimenté dans le sens d'une réalité concrète, oui. Mais quand j'expérimente quelque chose, je dissocie. Ceci est fait partie de l'expérience, mais d'une certaine manière est super expérience, parce que c'est le jugement d'existence qui fait partie de l'expérience, mais qui n'est pas l'expérience. Je ne peux pas ramener l'expérience au jugement d'existence. Je ne dirais pas tout ce que j'expérimentais dans le devenir. Non, non. Le devenir existe. Ah, le devenir existe. Il existe. Comment ? Est-ce qu'il existe par le devenir ? Non. Il existe parce qu'il est. Alors c'est ça qu'il faut arriver à saisir. Que dans l'expérience, je saisis l'existé qui est présent dans l'expérience. L'être est dans le devenir. Vous voyez ? Rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit, qu'il y a trois positions entre devenir et être. Première position, je ramène l'être au devenir. Deuxième position, je sépare le devenir de l'être. Troisième position, je sépare l'être du devenir. Je sépare le devenir de l'être. Je sépare l'être du devenir. C'est Parménide, Heidegger. Je sépare le devenir de l'être, Héraclite. Et tous ceux qui ne regardent que le devenir, ils sont multiples. Et je regarde dans le devenir l'être. Aristote. Je comprends que c'est pas commode, hein, J'insiste beaucoup parce que tout est là. Est-ce que mon intelligence est présente dans mon expérience? Quand j'expérimente quelque chose et je dis ceci existe, je touche cette table, mon intelligence est présente. Elle a conscience de toucher cette table. Positiviste, qui était une psychanalyste numéro un, qui me disait « J'ai une évidence plus grande dans les calculs astronomiques qui me disent la distance qui existe entre la Lune et le Soleil que dans ce jugement d'existence. » Elle était psychanalyste. Je dis « Non, moi, ici elle existait, dans mes calculs astronomiques, elle existait. » Je ne sais plus très bien où il est. C'est l'abstraction de l'exister dès que je suis en mathématiques. Alors, tout ce que j'expérimente est dans le devenir, donc dans le temps. Évidemment, si je dis ça, mais si je m'arrête là, là, ah non. Tout ce que j'expérimente est dans le devenir. Si je prends expérience au sens fort, oui, mais l'expérience implique un jugement d'existence. Et ce jugement d'existence manifeste la présence de l'intelligence dans l'expérience. Et l'intelligence dans l'expérience saisit ceci est. Seule l'intelligence saisit l'être. Alors que mes sens saisissent le devenir. Le devenir est un sensible commun. Dans toutes mes expériences, je saisis le devenir. Toujours. Mais je saisis le devenir qui est. Et c'est l'intelligence qui saisit l'être dans le devenir. Alors, évidemment, vous voyez, si je prends ça, tout ce que j'expérimentais dans le devenir, donc dans le temps, parce que j'utilise le mot est, bon, parce que j'utilise le mot est, ne signifie pas que j'atteins quelque chose au-delà du temps. Ah, ça dépend. Votre langage, il vient d'où? Il vient de votre connaissance. Et votre intelligence se développe à partir de quoi? De la réalité. Si donc dans le langage le mot est, et non pas le mot devenir, ça prouve que mon intelligence a saisi quelque chose d'autre que le devenir. Autrement, vous êtes obligé de dire, a priori, non, le mot est vient du ciel. C'est ce que dit Rosmini. Rosmini, un Italien de Milan. J'ai rencontré l'autre jour quelqu'un qui me disait « Je suis rosminien ». Je dis « Ah très bien, au moins, vous croyez en une métaphysique ». Il dit « Oui, Rosmini croit à la métaphysique, il a voulu la sauver ». Alors comment a-t-il voulu la sauver? À cause d'un raisonnement comme celui-ci. Il a voulu la sauver en disant « Ah, il y a un concept inné en nous, le concept d'être ». Alors, c'est intéressant de voir ce petit raisonnement rosminien. Et je continue pour que vous voyez bien la petite tête rosminienne qui apparaît. Le petit enfant qui est dans son berceau, il a un concept, l'être. Et on mettra en lumière progressivement ce concept d'être. Vous voyez, alors, parce que j'utilise le mot « est », cela ne signifie pas que j'atteins quelque chose au-delà du temps. J'ai aucune expérience de l'être en tant qu'être. Seulement quelque chose qui existe maintenant. C'est sûr. C'est quelque chose qui existe maintenant. Mais il existe maintenant. Et le maintenant n'est pas le devenir. Ah. Alors d'où ça vient? Est-ce que ça vient du devenir? Non. Le devenir est mesuré par le temps. Donc, ça vient de ce que cette réalité qui devient existe, et que mon intelligence est capable, à travers l'expérience d'une réalité mue, d'une réalité qui est en devenir, de saisir qu'elle existe. Donc, je n'ai aucune expérience de l'être en tant qu'être, seulement quelque chose qui existe maintenant, dans le devenir. Oui, ça existe dans le devenir, mais ça existe. Il y a deux choses. Quand on dit que l'être est au-delà du temps et du devenir, c'est le fruit de notre intelligence, tout à fait d'accord. Mais est-ce que c'est le fruit d'une intelligence qui expérimente la réalité? Ou est-ce que c'est le fruit d'une intelligence qui reçoit de Dieu le concept d'être? Si c'est une intelligence qui reçoit de Dieu l'être, c'est Rosmini. Alors vous voyez, Rosmini ne va pas jusqu'au bout de l'autonomie de l'intelligence. Il y a un cordon ombilical qui demeure avec Dieu. C'est le concept d'être. C'est très curieux et c'est très intéressant. Alors c'est intéressant de voir, vous voyez, Rosmini qui apparaît là à travers ça. Alors que celui qui l'écrit, je ne crois pas, connaît Rosmini. Je ne crois pas. S'il connaît Rosmini, il viendra me trouver, ça m'intéressera. Pour le corriger, Rosmini. Quand on dit que l'être est au-delà du temps et du devenir, c'est le fruit de notre intelligence. J'allais dire analogue avec la manière dont le mathématicien utilise un nombre. C'est vrai ou non? Bien, c'est pas vrai. C'est l'intelligence qui, à travers l'expérience, est actuée parce que cette réalité qui devient existe. Et le bien de l'intelligence, c'est de saisir qu'elle existe. Et cette réalité, en tant qu'elle existe, elle est dans l'instant présent. Le mathématicien ne saisit pas l'instant présent. Ça n'a aucun intérêt pour lui. Et toutes les sciences modernes qui proviennent des mathématiques ne saisissent pas l'instant présent, ne saisissent que le passé et le futur, l'ordre qu'il y a dans le temps, l'antécédent, le conséquent, mais ne saisissent pas l'instant présent. J'avais fait dans le temps, à Fribourg, un séminaire extra formam, c'est-à-dire en dehors du cours de l'université, ce qui était très intéressant. On avait étudié le temps. Alors il y avait un astronome de Lausanne, puisqu'il n'y avait pas à Fribourg d'astronome, un astronome de Lausanne, un matheux, un chimiste, un physicien, un poète, très important. Quel est le temps pour le poète? Et puis, le philosophe. Alors, ce qui était très intéressant, c'est de voir que l'instant présent, le poète s'intéressait à ça. Mais les autres, non. Il y avait le philosophe et le poète. Alors, on rejoignait ce que Platon dit. Parmi les gens inspirés, il y a le poète, le philosophe, le mystique. Qu'est-ce que dit Platon, hein? Dans Lyon, le dialogue Ion, à propos de l'inspiration. C'est très beau, ça. Ils se rejoignent pour accepter l'instant présent, puisque l'instant présent est le reflet de l'éternité. Saint Thomas dit, imaginativement, on peut se représenter l'éternité comme un instant présent subsistant. Arrête-toi, temps. C'est l'instant présent qui demeure et qui rejoint l'éternité. L'instant présent est le reflet de l'éternité, alors que le passé et le futur n'ont rien à voir avec l'éternité. Parce que l'éternité, il n'y a pas de passé. Dans l'éternité, il n'y a pas de futur. L'éternité est. présent mesure le jugement d'existence. Ceci est maintenant. Et c'est pour ça que ces deux questions se rejoignent. Et c'est intéressant de voir les deux obstacles. L'obstacle du je, l'obstacle du temps. L'obstacle du je, c'est l'obstacle subjectif. L'obstacle du temps, c'est l'obstacle objectif. Tout ce que j'expérimente, tout ce que j'expérimente est dans le temps. Donc, il implique toujours le devenir. Donc, je n'expérimente que le devenir. Votre philosophie est une philosophie d'expérience. Elle demeure dans le devenir. Et l'être, c'est vous, imaginativement, qui le sauvez. Parce que le devenir ne peut pas exister sans l'être. On dit ça. Il peut y avoir que le devenir, puisque je n'expérimente que le devenir. Pas le même Jeannette dans le devenir. Je ne suis pas le même qu'hier au soir. C'est vrai. Hier au soir, j'étais fatigué, je le suis moins maintenant. Alors, je ne suis plus le même. Hier au soir, j'étais de mauvaise humeur, maintenant je suis de bonne humeur. Plus le même. Tout ça fait changer. Est-ce que vous êtes... Posez-vous pas trop cette question, ça devient dangereux, n'est-ce pas? Quand vous vous réveillez, vous ne dites pas « Ah, mais je suis tout autre qu'hier. Hier, j'étais en colère vis-à-vis. Ah, maintenant, ça va. » Oui, les états peuvent changer. Les humeurs peuvent changer. Le temps peut changer, le temps. Beau ou plus vieux. La réalité profonde est au-delà du temps. Je suis au-delà du temps. Oui. Alors continuons maintenant. C'est bien, n'hésitez pas à poser vos questions, parce que c'est capital d'arriver à saisir le jugement d'existence. Mais on n'entre pas en philosophie première tant qu'on n'a pas saisi le jugement d'existence. Alors ne cherchez pas trop à saisir le jugement d'existence en dehors de l'expérience, ce serait très grave. Il n'y a pas de jugement d'expérience en dehors de l'existence, en dehors de l'expérience. Mais dans l'expérience, arrivez à discerner ce que vos sens touchent et ce que votre intelligence atteint. L'expérience est complexe, l'expérience interne comme l'expérience externe. Et vous comprendrez tout de suite, une fois que vous faites le discernement entre ce que vos sens atteint et ce que votre intelligence saisit, vous verrez tout de suite la différence de l'expérience interne et de l'expérience externe. Dans l'expérience interne, vous saisissez une modalité d'exister. C'est la modalité de votre exister. J'ai vécu cet amour. Je vis cet amour. Je vis cette colère. J'ai vécu cette colère. Vous voyez, d'un côté, le jugement d'existence touche la réalité objective qui est présente. De l'autre côté, dans l'expérience interne, je touche le vécu de mon intelligence, le vécu de mon cœur, de ma volonté. Et ce vécu de mon intelligence et de mon cœur, c'est l'être intentionnel, celui que je connais, c'est le fruit de ma connaissance, c'est le fruit de mon amour, l'être intentionnel. Ça existe bien, la l'intentionnalité existe dans ma connaissance, existe dans mon amour, mais n'est pas encore existé dans ce qu'il a d'absolu, dans son autonomie d'exister, puisque toute intentionnalité se ramène à ma connaissance et à ma volonté. Alors, nous continuons maintenant. Partons donc de ceci est, et du je suis. Je n'écarte pas le je suis, mais je reviens toujours à ceci est dans mon je suis. Vous voyez, d'une certaine manière, ma métaphysique commence par ces deux expériences. Et je crois qu'il faut le dire. Il faut mettre toujours ces deux, parce que ma métaphysique implique expérience interne et externe. Mon expérience interne, la plus forte, c'est « je suis ». C'est très interne, puisqu'il n'y a que moi qui peux le dire. Mon « je le saisis, je me connais, je me connais. Sans que c'est de l'ordre du vécu. Je suis, c'est du vécu, pour moi. C'est donc de, ça demeure dans l'intentionnalité. Et c'est pour ça que je ne peux pas partir de ça. Je m'aime, ou je me déteste. Philosophiquement et métaphysiquement, ça revient au même. C'est ça qui corrige tous ceux qui se détestent. Je dis, bon, ça n'a pas d'importance, c'est votre vécu. Parce que vous existez au-delà de la haine que vous avez pour vous. Et ça résiste. Et c'est vrai. La haine qu'on peut avoir pour soi, parce que ça existe, il vaut mieux pas l'avoir. Ne cherchez pas à l'avoir. C'est une mauvaise expérience. Mais ça peut exister. J'en ai rencontré des personnes et des jeunes qui me disaient « je me déteste ». J'ai une haine farouche contre moi. Et tous ceux qui m'aiment, je les déteste. Parce qu'ils m'aiment. Et qui veulent me faire sortir de cette haine. Alors que je vis dans cette haine. Et cette haine me fait vivre. Et comme un animal sauvage et mauvais. Hein. Dès qu'on touche, oup, un coup de dent, j'ai de la haine pour moi. Ça existe. C'est pas commode à corriger ça. Et pourtant, c'est la seule chose qui pourrait sauver ces personnes, c'est entrer en métaphysique. Mais il faudrait dépasser ce poids de haine qu'on a pour soi. Alors, il faudrait revenir, là, la psychanalyse a du bon. À cause de quoi vous vous haïssez? Quelle a été la première expérience? Très souvent, très très souvent, c'est un rejet de la mère. Très souvent, j'ai vu plus d'une fois, c'est un rejet de la mère. La mère rejette l'enfant. Ah ça c'est terrible. Parce qu'il ne se sent pas aimé. Alors quand on peut arriver à montrer que c'est cela, et que de fait, notre âme ne vient pas de notre mère, on est libéré. Mon intelligence ne vient pas de ma mère. Mon imagination, oh, elle dépend. Elle est très maternelle, mon imagination, pour un fils. Et pour une fille, elle est très paternelle. C'est curieux. C'est tout de suite la distinction entre eux. Le garçon et la fille, c'est les liens parentels, différents, imaginativement. Mais l'imagination existe. C'est mon intentionnalité, c'est mon milieu interne, c'est mon laboratoire imaginaire. Je dois arriver à dépasser. Et si j'arrive à comprendre que mon âme est créée directement par Dieu, je suis libéré. parce que Dieu ne me rejette pas. Et Dieu ne peut pas me rejeter. Il m'enveloppe de son amour. Et c'est un amour qui est très très caché. Nous étions arrivés à affirmer, à découvrir qu'il fallait ce jugement d'existence dans toute son objectivité, dans toute sa pureté, cette expérience qui dépasse expérience, cette expérience qui est l'intelligence qui pénètre à travers l'expérience d'une réalité qui émue, d'une réalité qui est dans le temps. L'intelligence pénètre que cette réalité existe. Elle est. Tout devenir existe. Tout devenir est relatif à l'être. Et je peux saisir ça. Mon intelligence est faite pour cela. Mon intelligence ne s'éveille comme intelligence séparée de l'imaginaire. Quand elle saisit, ceci est. C'est pour ça que c'est merveilleux. Mais c'est la libération de mon intelligence de saisir ceci est. Mon intelligence ne se sépare pas de mon imaginaire, mais elle se distingue. Mon intelligence va plus loin que l'imaginaire. Elle saisit ceci est. Alors je comprends l'affirmation de Thomas d'Aquin. Primo cadit in intellectus ens. Je vous l'ai dit. Il faut savoir par cœur ça. Primo cadit in intellectus ens. Vous voyez, ens, ce qui est. Ce qui est tombe dans l'intelligence. C'est-à-dire détermine mon intelligence. Et quand mon intelligence est déterminée par ce qui est, mon intelligence est libre de l'imaginaire, est libre du vécu. Mon vécu, c'est du passé. Je veux être maintenant et vivre pleinement de ce que je suis, de ce qui est en moi. Et ce qui est en moi est unique. Je peux ressembler à mes parents, je peux me ressembler à mes grands-parents, mais ce qui est en moi est unique. Ce n'est ni mes parents, ni mes grands-parents. C'est Dieu qui me le donne. Ça, on le dit au terme, hein, on ne le dit pas tout de suite. Quand je pose ce chemin d'existence à travers l'expérience du travail, de l'amour d'amitié, de la coopération, de ce qui devient, de ce qui vit. Quand je pose ce chemin d'existence, ceci est. Comme le ceci est relatif à est, c'est est qui m'intéresse. Je suis tout attentif à cette mise en lumière de ceci est. Et je me pose la question, dans l'admiration que j'ai de ce est. Alors, je vous dis tout de suite, c'est dans l'admiration de ce qui est que se situe ce que Maritain Raissa appelle l'intuition de l'être. C'est intéressant, vous voyez, de récupérer l'intuition de l'être. Ce n'est pas l'intuition de l'être, c'est l'intuition d'une relation, du ceci à est. C'est vraiment ça, l'intuition de l'être. C'est comprendre Raissa, le chat de Raissa, le cas. caillou, ainsi de suite. Il est. Alors, selon le langage, vous comprenez bien. Selon le langage et relatif à ceci, selon l'intelligence, ceci est relatif à « et » d'une manière telle que « et » seul m'intéresse. Même Raïssa. Il y a l'unité. Découvrir l'unité dans la diversité. L'intuition peut saisir ça. Vous voyez, il y a une certaine intuition, c'est vrai, mais une intuition du rapport, du ceci, des ceci. Au pluriel, des ceci. À l'unité, il y a une certaine relation de cette diversité. La diversité des ceci et l'unité de l'être. Là, je peux dire qu'il y a une certaine intuition de l'être. Mais voyez bien, c'est pas l'intuition de l'être. C'est ce qui suscite en moi une admiration, un étonnement. Raïssa disait, la première fois que voyant ce petit miné devant moi, ce petit chat, et puis me regardant, je dis, mais c'est étonnant. Nous sommes un dans l'être. L'œcuménisme radical qui risque de conduire dans un panthéisme. Je suis un dans l'être. Ah, l'être, il fait l'unité. L'être fait l'unité. Ah, c'est merveilleux. Et donc, à partir de là, il y a une paix métaphysique. Le plus grand des brigands est, et sa pauvre victime est, jusqu'au moment où elle meurt, mais elle existe encore. Et donc il y a un œcuménisme radical. Ça me met en admiration. Et alors, c'est bon. Puisqu'on a beaucoup parlé de l'intuition de l'être de Maritain. Et j'ai beaucoup cherché pour savoir à quel endroit cette intuition pouvait exister. Alors, au début, j'ai nié l'intuition d'Aristote de Maritain. Et je l'ai dit, même je l'ai écrit. Ce qui a mis tous les maritanesques le maritien, en opposition, en violente. Alors, par amour pour eux, j'ai cherché. J'ai dit, mais là, voilà l'admiration. Quand on a une intuition, on est en état d'admiration. C'est le danger du reste, parce que l'admiration est subjective et risque d'accaparer. On aime mieux l'admiration que ce qui suscite l'admiration. Parce que l'admiration est subjective. Or, comme on vit un monde de subjectivité transcendantale, l'admiration me met en présence de cette subjectivité transcendantale. Et c'est vrai que là, c'est mon intelligence qui saisit ce rapport. Et c'est mon intelligence qui saisit cette diversité et cette unité. Et je suis alors en admiration. Et je dis, mais c'est ça l'être. Non. L'être, c'est pas l'unité dans la diversité. C'est bien l'être, oui, qui suscite cette unité. Mais l'être va plus loin que cela. Il est source. La diversité, je m'en sépare, vous voyez, au sens rigoureux, quand je veux saisir l'être. Je me sépare de cette diversité. Et je regarde et je dis mais en tant qu'il est. Ça, c'est mon intelligence qui fait ça. Qui sépare et du ceci. Parce que la réalité, c'est le ceci dans l'être. C'est la diversité des ceci dans l'être. L'intelligence peut. Alors c'est ça qui est très très curieux, c'est ce passage qu'il faut bien comprendre. Je passe de « et » à « être ». L'être en tant qu'être, en tant qu'il est, en tant qu'être. Alors comment se fait ce passage de « et » à « être » ? pas lui-même qui le dit. On peut mettre ça en note, Saint Thomas qui dit ça. Ça vous donne un peu de force. Blanc, blancheur. Pourquoi je dis blancheur? Pourquoi je parle du concret à l'abstrait? La blancheur. Vous n'avez jamais expérimenté la blancheur, sauf sur la viche, le persil blanc blancheur. Oui. La blancheur, vous ne l'avez jamais touchée. Elle est dans votre tête. Le blanc du mur, le blanc de la neige, le blanc d'un voile monastique, le blanc, il est pris concrètement, tel blanc. Ça, je l'expérimente, je l'ai vu. J'ai vu ça. J'ai vu ce blanc. Et à partir de ce blanc, si je veux savoir qu'est-ce que c'est que le blanc, pas le mur blanc, mais qu'est-ce que c'est que le blanc, je sépare blanc du sujet, du ceci. Le mur blanc, la neige blanche, le visage blanc, la chemise blanche. Je sépare blanc du sujet et je le regarde pour lui-même. C'est ça qu'on appelle l'abstraction. Je passe du concret à l'abstrait. Je dis, qu'est-ce que c'est que la blancheur? Cherchez dans un dictionnaire blanc et blancheur. C'est très amusant. Hein, vous verrez que blancheur, ce par quoi le blanc est blanc. Hein, ça vous dit tout à fait ce que c'est. Oui, c'est toujours relatif. C'est très très curieux. Ce par quoi le blanc est blanc. Ah, c'est intéressant. Ce par quoi. C'est donc un principe. Il y a donc une induction. La première induction, elle est naturelle. Et c'est l'intelligence qui passe de blanc à blancheur. Voilà la première induction. Je veux savoir ce que c'est que le blanc. Et donc, je le regarde pour lui-même. Vous voyez, quand Platon veut regarder les formes en soi, il ne regarde pas le blanc, il regarde la blancheur. Platon nous fait comprendre ce que c'est que les formes en soi. Je regarde la blancheur. Ce par quoi le blanc est blanc. Quand je passe de « et » à « être », ce par quoi l'être est « être ».